Daiquiri.
L'émission LGBTQ, transpédé Big Win de Reims.
Bon, surtout Gwyn.
TKR.
Daiquiri sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you! You don't fucking know me!
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
TKR.
Bonsoir. Bonsoir, il est 18h sur Radio Primitive, 18h01, et c'est l'heure de prendre votre apéritif LGBT.
Avec nous,
avec
ouais.
Nous, dans la bonne humeur, on va parler musique aujourd'hui.
Musique et livre, on mélange les deux en même temps aujourd'hui.
Ouais, on va vous faire un petit rendu d'une rencontre qui a eu lieu récemment à Reims et qui a été organisée par le Jazz Club à la librairie Amaury, la présentation d'un ouvrage qui s'appelle « Féminisme au pluriel et musique de la pop de Madonna à nos jours » écrit par la journaliste Morgane Giuliani. C'est son premier livre. On est allé assister à cette rencontre.
Ah,
on
c'est
a
même
pris
toi
du
qui,
son...
l'a commenté, c'était... Super cool.
Voilà, et puis du coup, on voulait vous parler davantage de ce livre à travers ce qu'elle nous en a dit, Morgane Giuliani, dans ces échanges-là. Mais toi, tu as ajouté un petit quelque chose en
j'ai
plus.
J'ai ajouté un petit livre que j'avais sous la main, que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais eu à l'époque, qui s'appelle Riot Grrrr, avec 3 R, chronique d'une révolution punk féministe, un livre de Malon Labri qui vous parle du coup de Riot Grrrr.
Ouais, un mouvement donc de...
Qu'on aime beaucoup.
De, c'était quoi ? C'était plutôt lié à la scène punk, en
grunge,
soi, underground.
Grunge punk.
Et composé exclusivement de meufs. Donc on va parler de ça, on va s'écouter des bouts d'un peu tout, mais on va commencer à l'envers en plus.
Ah oui,
aujourd'hui.
Surprise.
Mais on s'écoute un petit son d'abord peut-être.
On vous met
peut-être.
Un petit son et après on va vous bombarder un agenda de Mars qui va être magique.
C'est un son PD.
Alors c'est fait par... alors c'est marrant parce que ça fait un lien avec les Riot Girls, que c'est Rosemary Azerty, sauf qu'elle a la 5 roses. Dans son nom. Donc c'est une productrice de zik sous licence libre, donc qui est gender fluide et non binaire et qui fait de la guitare, du clavier et des machines et qui a produit plus de 2000 titres que vous pouvez utiliser en défrayant bien sûr parce que c'est sa création, mais c'est sous licence libre, donc c'est super cool. Ça sert souvent pour des films et pour du jeu vidéo. Et donc elle est anticapitaliste, elle est antifa, elle est anarchiste. Et moi j'ai pu la découvrir en live sur une émission sur Twitch qui s'appelait Game Dolls Advance, une émission avec que des trans qui parlait de jeux vidéo, qui était trop bien. Et elle a fait un petit laïus de 15 minutes. Magique, alors j'ai rien compris parce que c'est pas mon truc la zik, mais c'était trop intéressant et franchement c'était...
On peut retrouver ce
logiquement
ce petit...
Il devrait avoir un replay de ce truc, mais on vous en reparlera, mais franchement non, c'est j'ai kiffé et j'avais découvert avant sa musique, dont un magnifique clip qui a été fait par Sophia, que je vous conseille aussi, de la chanson qu'on va vous passer aujourd'hui qui s'appelle...
Extrêmement PD de ouais. Toi voilà ce qu'on met dans vos oreilles, c'est Daiquiri.
Petit sortir de ta bagnole, il faut que j'établisse ce constat. Tu dis déterre. Et je réponds oui, oui. Je sens que j'ai explosé. Tu fais qu'à m'observer. Je suis désespérée à une emprise qui me servirait. Je sens que j'ai explosé. Je sens que...
Nous, on est tous extrêmement pédés de tous nos auditeurs.
Ah bon?
Oui.
Même sans les connaître?
Oui, même sans les connaître.
Bon, c'était sympa, mais c'était un peu foutraque ton truc à la fin. Hein.
Oh,
ça commence bien, mais après, moi, ça m'a perdu. Il y avait trop de trucs. moi, j'ai besoin de symétrie.
Ah, mais dans le clip, ça court dans le métro. Avec le clip,
ah,
c'est encore mieux. Donc,
ah,
regardez
oui,
le
forcément,
clip.
Forcément, ça voilà. Va bien alors. Bon.
Vas-y, ton jiggle cringe. Et on enchaîne sur.
Oh, oh. L'agenda. Non, je suis trop forte.
Ah. Agenda.
Daiquiri. L'agenda LGBTQI
transpédiligouine
sur Radio Primitive.
More. Okay.
L'agenda Daiquiri. Ça fait au moins un an qu'ils n'ont pas entendu
ouais,
ce jingle.
Tu me fais des pièges, tu m'as dit ah, je ne l'ai pas, on va mettre le screen.
Si, je l'ai.
Non mais ça me fait des surprises, c'est cool.
Bon, on a décidé de vous donner déjà les dates
ouais,
du mois prochain, puisque il y a pas mal de choses qui arrivent avec le mois de mars, bien évidemment. Donc je vais te laisser la parole, Gwen, je crois que
oui,
tu as noté pas mal de rendez-vous pour nos éditorices.
Presque tout. Donc qui dit mars dit journée internationale des droits pour les femmes internationales, oui. Donc il y a des choses qu'on essaie d'organiser à Reims, notamment grâce à la coordination féministe Reims et alentour, qui s'est créée il y a 2 ans. Donc je vais vous faire déjà un premier petit panel de toutes les dates que j'ai arrivé à glaner logiquement j'espère qu'il y aura peut-être d'autres trucs qui vont se rajouter. Donc je commence avec une exposition qui se passera sur le campus STAPS, donc c'est au Moulin de la Housse, organisée par l'association ARES, qui est l'association des gens de STAPS, qui fait une expo du coup sur les grandes femmes de l'histoire, sur les grandes sportives engagées aussi. Donc vous pourrez découvrir ça dans leur bâtiment tout au fond du campus Moulin de la Housse. Et le mercredi, elles passeront, donc ce sera le 6 mars si je me trompe, elles passeront le film de Simone Veil, donc pareil, toujours dans l'amphi de STAPS, parce que les STAPSiens ils ne sortent jamais de leur campus, hein, ça se voit. Donc si vous voulez y passer, n'hésitez pas, il y aura un débat juste après. Alors je crois que je ne l'ai pas vu ce film sur Simone Veil, mais bon, même si c'est le mouvement féministe qui a permis cette loi, je pense que c'est intéressant de le voir quand même. Mmh. Le 8, le jour J, oui, il y aura un fémage à partir de 16h. Donc ce sera dans la bibliothèque de la Maison de la Vie Associative. Donc c'est juste à l'entrée, vous arrivez dans la Maison Associative et c'est juste sur le côté... Vas-y.
C'est quoi un fémage?
Alors un fémage, c'est un hommage, mais pour une femme.
Voilà, ah,
pour ceux qui ne suivent pas au fond de la salle. Et qui on va fémer? Donc on va fémer Marie-Ange Petit.
On va fémer.
Qui est une figure locale. Donc c'est la première déléguée des droits des femmes de la Marne, qui est hélas morte l'année dernière. Donc qui était quand même une grande dame féministe. Et donc du coup, on a décidé de faire ce fémage pour ce 8 mars. Donc n'hésitez pas à venir, à rencontrer, il y aura des expos, il y aura plein de choses, plein de discussions, vous pourrez rencontrer des anciennes militantes mais aussi de plus nouvelles, et c'est organisé principalement par le planning familial de Reims. On enchaîne le 8 mars, toujours à la MVA, comme ça vous n'aurez pas besoin de courir, à 19h30, il y a un club de lecture alors qui est organisé avec le planning familial donc dans leurs locaux, mais aussi en partenariat avec la librairie La Belle Image. Et le but, c'est de venir et, avec son premier bouquin qui vous a marqué dans votre entrée sur le féminisme.
D'accord.
Donc, si vous vous en rappelez, parce que moi j'avoue, j'ai un peu galéré à trouver.
Et puis il faut encore l'avoir, parce que c'est des bouquins qu'on nous avait prêtés.
C'est vrai, ça peut être ça. Mais bon, même avec la référence.
Mais c'est l'objet de partir de quelque chose pour discuter, je suppose.
C'est ça. Si on se retrouve, chacun peut ramener son bouquin, discuter. Alors, il faudrait mieux s'inscrire avant, parce que du coup, les places sont limitées. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement vers la Belle Image, parce qu'ils ont des places pour eux. Et je sais que les adhérents du planning familial ont aussi des places qui sont calées, mais si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous écrire, parce que s'il reste des places, on pourra vous en refiler. Le lendemain, c'est la grande manifestation qui va se passer à Reims à partir de 16h.
Le 9 alors.
Le 9,
ah,
9 mars.
Mince, on pourrait pas faire ça le même jour quand même. Non, mais il faudrait qu'on se mette en grève, alors c'est compliqué.
En sachant qu'il y a un appel à la grève
chaque
année.
Il y a un appel à la grève chaque année.
Justement, la grève, que ce soit du travail, la grève du travail gratuit que vous faites dans vos familles et d'autres, toutes les grèves en fait. Grève du sexe, grève de ce que... Tout ce qui est rapport
donc là,
à
juste le lendemain, c'est un samedi, donc on pourra aller manifester.
Donc logiquement, ce sera à 16h. Le départ devrait se passer sur la place Musseux, à côté de Sciences Po. Là, on est en train de faire les demandes, mais logiquement, donc il faut du monde. Venez nous rejoindre. La coordination sera là. Et petit message en plus, si vous voulez vraiment aider, on doit faire une rencontre le 5 mars à la MVA à 18h30 pour justement avoir des gens pour donner du coup de main pour cette manif. Donc, si vous n'êtes pas dans une asso ou si vous êtes féministe et que vous avez envie de vous impliquer à Reims, rejoignez-nous, venez nous rencontrer et on vous donnera. Il y aura des trucs à faire, il y aura du manuel, il y aura de la discussion.
Puis l'engagement, c'est comme dans tout collectif ou tout asso, hein, ça peut être sur la journée même, parce qu'on comprend aussi que les engagements des unes et des autres soient différents. Donc si vous avez que de la place le jour même ou juste pour le coup de main d'avant, mais que vous n'êtes pas là le jour même, on prend tout.
On veut surtout se rencontrer et être forte justement pour cette année, que ce soit un beau 8 mars. J'enchaîne avec le 10. Le 10, il y aura une conférence organisée rue des Poissonniers, dans les locaux du Parti communiste français, sur une introduction au féminisme. Le 13, là, cette fois, on va se déplacer à l'Opérins pour une projection organisée par La Voix des Hyènes, avec le film Les Invisibles. Donc, ce sera à 20h30 et c'est un film, du coup, qui parle de précarité menstruelle, qui est un peu le thème pour ce 8 mars que va faire suivre La Voix des Hyènes. En sachant qu'il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus, mais qui ne sont pas encore calés. Mais je peux déjà vous dire que normalement, il y aura une journée dédiée justement à la précarité menstruelle. On n'a pas encore les détails parce que la date n'est pas encore calée. Et il devra avoir plusieurs collectes de protection hygiénique organisées aussi pendant le mois de mars dans différents lieux. Mais ça, pareil, vous aurez les infos sur les médias des différentes associations de la Cordo et aussi sur l'Instagram de la coordination féministe Reims et alentour. Et la dernière date, si je ne me trompe pas, ce sera le 31, avec encore une fois dans les locaux du Parti communiste, une conférence sur le féministe marxiste. Et bien sûr, normalement, il y aura d'autres choses qui se rajouteront, mais là, normalement, on doit faire un programme complet avec la Cordo, donc ça devrait être balancé, dans pas longtemps. Donc restez sur les réseaux, et puis de toute façon, on mettra aussi sur nos réseaux à nous. Hein.
Et bien sûr, autre des rendez-vous qu'on
qui n'est pas dans la Cordo,
pas volontairement,
pas volontairement.
De vous en parler. C'est un rendez-vous qui a eu déjà lieu les années précédentes.
Ça fait
ils disent 3 ans maintenant, mais ils aiment bien mentir.
La première n'était pas une vraie
première pour nous, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est le festival Pop Women.
Ouais, le Pop Women Girl Boss Festival, qui sera le 7, 8 et 9, principalement au Cellier. Alors, allez voir surtout Ovidie, qui sera là, et ça va être super chouette. Il y a d'autres trucs chouettes, je crois aussi, mais je ne connais pas tous, j'avoue.
De toute façon, ils ont un site, Pop Women Festival, vous avez toute la programmation.
C'est très financé, donc il y a de quoi avoir l'info.
Il y a plein d'infos, il faut s'inscrire, c'est payant. Ouais. Mais visiblement, il y a des tarifs de réduction, mais bon.
C'est payé à la journée, donc c'est vrai que moi, du coup, je fais toute la journée, comme ça, je rentabilise mon billet. Mais non, l'année dernière, il y avait des trucs intéressants. C'est à vous de voir si vous voulez tester, mais c'est une proposition qu'il y a aussi dans ce mois de mars féministe.
Super. Bon, on passe un peu de musique et après on parle musique ou comment on fait?
On enchaîne. On peut enchaîner directement.
On peut enchaîner. On va parler littérature maintenant sur Radio Primitive et pas tellement de culture LGBT. Enfin, peut-être à la fin si on a le temps.
La pop, c'est pas LGBT.
Puisque on va parler surtout d'un axe qu'on aborde aussi beaucoup quand même dans notre émission, c'est les féminismes. Il y a un petit
avec
peu moins d'un mois, il y a eu une petite une rencontre autour d'un livre. Donc ça, on vous le disait tout à l'heure, Féminisme et musique de la pop de Madonna à nos jours, un livre écrit par Morgane Giuliani, une journaliste. On vous propose d'écouter déjà la présentation qu'elle nous fait de ce livre et d'elle-même peut-être.
Parce que c'est pour savoir situer, vous rappelez qu'ici on est très, très savoir situer.
Et ça vous donnera très certainement d'aller mettre le nez dans ce livre que vous pouvez bien évidemment retrouver à la librairie Amaury à Reims.
J'ai 32 ans, j'ai grandi en Lorraine, donc pas très loin d'ici, mais c'est ma première fois à Reims, donc je suis très contente d'être là. J'ai grandi en étant déjà très fan de musique et en aimant écrire sur la musique aussi. Donc je tenais des skyblogs notamment sur mes groupes préférés quand j'étais ado par exemple. Et puis en fait je suis arrivée au journalisme par la musique en fait, c'était vraiment ça qui me plaisait, même si j'ai pas fait que ça, j'ai aussi fait du journalisme culturel de manière générale et pas mal de journalisme société, notamment tout ce qui est lié aux droits des femmes, violences faites aux femmes, etc. J'ai notamment bossé à RTL, RTL2, Marie-Claire, Donc voilà, à peu près pour mon parcours. Mais là, en ce moment, je suis indépendante. Voilà, journaliste freelance. Le féminisme, bah, je suis un peu tombée dedans dans la vingtaine. Je pense comme beaucoup de filles de ma génération, les millennials, entre guillemets, notamment grâce à la pop culture, par exemple des séries comme Girls, même s'il y a des choses qu'on peut reprocher à la série. Et puis j'ai commencé à m'y intéresser petit à petit, à lire des livres, et puis à pareil pour mes copines autour de moi et mon entourage, etc. Et j'y suis arrivée comme ça. Et en fait, j'essaye vraiment aussi d'écrire sur la culture avec un œil féministe assez assumé quand même. Voilà, et d'avoir globalement une approche féministe sociétale de la culture.
Justement, dans ce livre, tu as mis rien que dans le titre féminisme au pluriel, musique au pluriel. Dès l'introduction du livre, t'expliques pourquoi tu as mis ces pluriels-là, mais je pense que c'est intéressant peut-être d'y revenir parce que ça explique aussi dans quel type de féminisme tu t'inscris, toi.
Bah, je m'inscris dans ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire un féminisme qui ne voit pas les femmes comme un groupe homogène, mais qui considère qu'il faut aussi prendre en compte, par exemple, les questions d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'origine sociale, de couleur de peau, de handicap, etc., etc., pour parler des femmes. Et donc avec l'idée que il y a beaucoup de femmes différentes qui existent, et du coup il leur faut aussi différents types de féminisme parce que différentes problématiques. D'où le féminisme au pluriel sur la couverture, parce que je voulais déjà un peu montrer aux lecteurs, aux lectrices que on n'était pas là en mode, entre guillemets, féminisme un peu de la seconde vague qui va être très hégémonique, parce que c'était important pour moi, mais même pour la maison d'édition aussi, de montrer qu'on essaye d'avoir un œil vraiment pluriel et de parler d'une pluralité d'expériences d'artistes féminines dans la musique.
Justement, dès le titre aussi, parce que tu as mis les pluriels, tu viens de nous les expliquer un petit peu, mais le sous-titre, en tout cas, c'est de la pop de Madonna à nos jours. Tu as décidé de t'orienter directement vers la pop musique, et j'aimerais bien déjà que tu nous dises ce que ça représente pour toi, en tout cas, où tu as été chercher ce concept de pop musique, de quoi tu t'inspires, pourquoi tu l'utilises, et qu'est-ce que ça veut dire au final ?
Alors à la base, avec Le Mot et le Reste, ma maison d'édition, on a décidé de s'intéresser à ce qu'on a estimé être les trois plus grands genres musicaux populaires, c'est-à-dire la pop, le hip-hop et le rock, et d'en faire une trilogie. Donc là, le premier livre est consacré à la pop. Il y aura un deuxième livre sur le hip-hop et un troisième livre sur le rock. Et c'est une bonne question, en fait, qu'est-ce que c'est la pop musique ? C'est pas toujours facile à définir. La pop, elle, je trouve qu'elle va créer des figures très mythologiques, comme par exemple Madonna, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas fan de Madonna, même si vous l'écoutez pas trop, vous voyez qui c'est, et vous avez très certainement un avis sur elle, en fait. C'est des personnes qui sont très présentes dans l'univers médiatique et qui ont une influence, en fait, assez forte sur la culture. Donc l'idée, l'appeler la pop de Madonna à nos jours, c'est parce que je pars de Madonna. L'idée du livre aussi, c'est de s'intéresser plutôt aux artistes contemporaines, ça je ne l'ai pas précisé. Donc je commence à partir des années 80 et je remonte jusqu'à voilà, les années 2020. Et démarrer à Madonna parce qu'on s'est dit que c'était quand même, ça a été un espèce de bulldozer Madonna. On peut peut-être avoir tendance à l'oublier aujourd'hui parce que ça commence à faire un moment qu'elle a sa carrière, mais tout ce qu'elle faisait était pas forcément nouveau parce que d'autres femmes avant elle, par exemple, ont pu parler de sexe en musique, mais... Tout était sujet à controverse, et notamment aussi ses soutiens aux communautés LGBT, sa lutte contre le VIH, ça a été une des premières célébrités à vraiment s'engager sur ces questions-là. Et d'ailleurs, franchement, au début, à faire plus que les politiques américains, alors que l'épidémie de VIH était en train d'exploser aux États-Unis. Et donc, je pars d'elle parce que bah, c'est elle qu'on appelle la reine de la pop, et donc c'est celle qui a quand même ouvert la voie aussi à la pop telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la pop à travers les clips vidéo, parce qu'elle a démarré sa carrière en même temps qu'MTV s'est créée. C'est la pop des énormes concerts avec des costumes incroyables, des mises en scène de ouf, beaucoup de danseurs. Et donc c'est vraiment elle qui a façonné la pop telle qu'on la conçoit aujourd'hui, en fait.
On va parler du contenu un petit peu tout à l'heure, mais je voulais déjà parler de ton travail sur ce livre. Le livre, il se découpe en plusieurs parties. Il y a déjà plusieurs portraits d'artistes féminines de la pop music, donc Madonna par exemple, mais tu fais aussi le portrait des Spice Girls ou encore de Beyoncé et de Taylor Swift. Alors moi j'ai découvert certaines artistes parce que Taylor Swift par exemple je connaissais pas trop. Et en fait c'est vrai que déjà ces portraits ça se lit super vite parce qu'on a l'impression juste de lire leur histoire, quoi. Et du coup je me demandais sur l'écriture du livre, c'est très sourcé. Il y a énormément de recherches, mais ça se lit super facilement. Comment tu as envisagé ce travail d'écriture, surtout que c'est ton premier livre? Est-ce qu'il y a eu des inspirations pour toi, des personnes ressources? Comment tu as passé ton temps pour écrire tout ça?
J'ai beaucoup travaillé. j'ai beaucoup lu. Mon envie, vraiment, je voulais faire un livre qui soit bien sourcé, bien documenté, c'est-à-dire qui ouvre plein de portes aux gens en le lisant. J'avais l'espoir aussi d'apprendre des choses, même aux gens qui sont très familiers des questions féministes ou des questions de pop culture. Donc, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut aller creuser quoi, pour aller trouver des anecdotes notamment. Donc, j'ai fait un peu un gros travail d'archives, par exemple sur des artistes comme Madonna et les Spice Girls. Je suis allée éplucher la presse de l'époque. Après, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que merci Internet, il y a vraiment beaucoup de ressources en ligne. Et je me rends compte, même moi, j'ai été diplômée il y a 10 ans. J'ai vu la différence où il y a eu un cap énorme qui est passé, où tu peux trouver très facilement, par exemple, des articles universitaires en ligne. Enfin, moi, je m'appuie beaucoup aussi sur des travaux d'intellectuels féministes pour écrire ce livre, parce que je m'intéressais aussi à ce qu'elles racontent de ces artistes-là, qu'est-ce qu'elles disent de Madonna, des Spice Girls, etc. Et ça, c'est des ressources que j'ai beaucoup trouvées en ligne, par exemple. Et c'est vrai que, le livre a plutôt des ressources en... américaine, états-unienne ou britannique, parce que là-bas, c'est beaucoup plus développé dans le domaine universitaire, en fait, ce qu'on appelle les pop culture studies, par exemple. En France, le monde universitaire est quand même en retard, même si on commence à avoir des universitaires qui s'intéressent à ces questions-là, mais ça commence tout juste aux États-Unis, c'est déjà le cas depuis les années 90.
Ah oui, nous, il y en aurait, ils se arracherait les cheveux si on crée un département des pop studies.
Est-ce que c'est pas un peu wokiste les pop studies
Bonjour, vous écoutiez Daiquiri et surtout Morgane Giuliani à l'instant, journaliste qui nous parlait de son premier livre « Féminisme et musique de la pop musique de Madonna à nos jours ». Toi, en parallèle, Gwen, t'as lu un autre bouquin qui parle d'un autre courant musical où il y a des meufs dedans. Enfin, en tout cas, t'as lu ça et ça parle de meufs aussi.
Ah, surtout, ce qui m'a touché, c'est, comme tu le dis pour le bouquin de Morgane, c'est que c'est très sourcé, c'est très complet et en même temps, ça se lit super bien. Et quand t'as dit ça, moi, ça m'a fait vraiment ce parallèle avec le bouquin du coup de Manon Labrie sur les Riot Girls. Alors, elle est doctoresse en civilisation nord-américaine. Sa thèse portait sur les relations entre culture mainstream et sous-culture underground à travers l'étude du cas de la sous-culture punk féministe nord-américaine.
On adore les thèses.
Voilà, c'est pour dire que c'est un bouquin sur les Riot Girls, juste simplement, sauf que c'est en langage universitaire.
Il faut un nombre de mots.
Mais du coup, dans son bouquin, pareil, il y a des blagues, il y a plein de délires, ça se lit super simplement, il y a plein d'anecdotes, et c'est pour ça que quand tu parlais du bouquin de Morgane, ça m'a fait titre de « tiens, c'est vrai que celui-là, pareil, je l'ai dévoré ». Alors, je l'ai fait souffrir, parce qu'il a subi une récup, il s'est fait bouffer par des kiwis que j'avais oubliés dans mon sac, donc au moins, il est vraiment Riot Girl, mais du coup, j'ai voulu revenir sur ça. Alors, ce bouquin, ce qui est super intéressant, donc ça part de ce mouvement alors qu'on connaît en France quand on aime le punk, qui s'est créé en 1987 ou 1988, même si les prémices apparemment commenceraient en 1985. On est dans une ère post-Reagan, donc du coup de la droite très 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 dure, une vague totalement anti-féministe et une culture pop totalement capitaliste. Ça commençait vraiment à être commercial. Et justement, c'est un peu un contre-pied qui s'est créé pour se dire il fallait sortir de cette culture juste de la thune dans la musique. Le message est punk, c'est-à-dire qu'il y a ce truc de pas besoin de savoir faire de la musique pour en faire. Avec ce truc, prends un instrument, hop, et tu t'y vas avec tes potes, avec tes copines, nanana. Y a ce principe de une chanson jouée, même une seule fois, ça fait de toi un groupe. Donc ça, c'est beau.
Ah ouais.
Ouais. Et donc ça veut dire que...
Il y a plein de groupes qui existent aujourd'hui.
J'ai été dans deux groupes, parce qu'il y a un groupe que j'ai fait une seule représentation, et donc c'est un groupe. Merci les Riot Girls. Et ça baigne, comme le montre la thèse de Manon Labrie, totalement dans la culture underground. J'adore dire underground. Donc c'est des petites communautés qui se retrouvent avec des concerts dans des sous-sols, chez les habitants, des fois dans les arrière-boutiques de
disques. On n'est pas chez Madonna, quoi.
Oui, voilà, parce qu'en plus, bah, à l'époque, il y avait encore des disquaires, ce qui maintenant est une des assez rare. Donc c'est dans des lieux un peu atypiques où ils se retrouvaient. Et en même temps de ce mouvement musical, comme je vous dis, il y a eu à peu près au même moment cette culture zine qui s'est mélangée, alors qu'une culture qui existait déjà.
Alors, zine, tu veux dire fanzine?
Fanzine, donc du coup, c'est des petits magazines que les gens vont fabriquer eux-mêmes de façon DIY et partager de façon un peu sporadique. Alors à l'époque, c'était les balbutiements d'Internet, donc ça se faisait avant tout par courrier et ça commençait légèrement sur les débuts d'Internet. Alors, le punk n'a pas inventé la culture DIY, ça existait avant, mais ils sont beaucoup servis de ça. Et c'est vrai que ces groupes, ces femmes qui étaient dans des groupes, sont aussi rencontrées à travers les messages poétiques qu'elles ont sortis dans leurs zines, qui étaient pour la plupart... Alors, il y a eu des zines collaboratives, mais c'était pas mal des zines faites toutes seules dans sa chambre.
Des zines perso.
Pour parler justement de sujets assez lourds, de solitude, d'harcèlement à l'école, de sexualité, d'interrogation même sur son genre. Plein de choses qu'on met dans le thème de l'intime, donc qui ne sont pas censées sortir. Donc, elles ont eu besoin de le créer, de le mettre sur papier, de le découper, de faire des dessins autour et de créer quelque chose. Alors, je sais que la culture zine est... plutôt bien référencé aux États-Unis. Il y a pas mal de bouquins dessus. En France, c'est peut-être plus dur de trouver des choses dessus. Donc, l'avantage aussi de ce bouquin, c'est de revenir sur ça. Et ce qui est rigolo, surtout, c'est que c'est plusieurs filles qui, au même moment, ont créé ces zines sans se connaître, et elles ont commencé à les échanger et elles sont tombées l'une sur l'autre et des échanges se sont créés et des groupes aussi se sont créés grâce comme ça. Et j'avoue que
ça a créé sororité.
Ouais,
quoi.
Cette spontanéité, je trouve ça vraiment vraiment chouette. Et et l'avantage aussi, ce qui a été fort, moi je trouve. Alors je suis une grosse fan de Riot Girl. Alors même si ma préférée des Riot Girl, c'est pas une Riot Girl vraiment. Ce sera Hall avec Courtney Love.
Oui, c'est quelqu'un qui s'est jamais dit féministe.
Voilà, qui a bien aimé cracher dessus, mais en même temps, je trouve que toute sa démarche, toute sa façon de faire.
Oui, mais comme Beyoncé affichée féministe, voilà. Et ça, on le lit dans le livre de Morgan Giuliani, comme les artistes pop se sont servis parfois de l'image féministe, alors qu'elle l'a réfutée complètement avant, pour dire attends, est-ce que j'ai envie de passer à côté de ce que tout le monde a l'air de considérer comme important en ce moment? Est-ce que c'est un coup marketing ou pas d'ailleurs?
Ouais, c'est ça.
Enfin, tu vois, il y a toute cette réflexion aussi.
Et je sais que ce qui était intéressant aussi dans ce message, c'était se rendre compte aussi que lorsque le Riot Girl étant lié au punk et au grunge, c'est quand même de la musique, on va dire, pour les néophytes violentes, quoi, où on hurle, il y a de la guitare saturée, où ça fait du bruit. Mais en même temps, c'était pas du tout un milieu ouvert, friendly, vers les personnes assignées femmes, parce que bah, du coup, c'était très viril, très, très masculin. Et il y a beaucoup de Riot Girls qui ont monté leur groupe, qui, grâce au groupe pionnier, se sont rendus compte qu'on pouvait allier une féminité extrapolée avec cette culture un peu du glam rock qui avait déjà un peu, et cette musique violente. Et c'est ça aussi dire que nos féminités, c'est des mix, c'est des mélanges qui paraissent contre nature, mais qui peuvent exister. Et du coup, dans le bouquin que je vous conseille de lire, il y a plein d'anecdotes super intéressantes. Moi, celle que j'ai adorée, c'est de se rendre compte aussi le titre de l'album éponyme de Nirvana, Smell Like Teen Spirit,
ça vient
de la chanteuse de Bikini Kill. Qui traînait avec Kurt Cobain. C'est aussi ça qui a du coup joué sur le fait que Kurt Cobain soit une personne féministe et qui l'insultait un peu avec ce terme et qui s'est retrouvé comme titre de l'album un peu le plus connu de la culture grunge. Voilà.
Et ça fait le parallèle parce que tu disais là c'était pas un milieu où on les attendait parce que ça criait, c'était fort, c'était donc pas assimilable à ce qui était attendu du féminin à l'époque, mais rien que dans les cultures pop, et on le voit à travers le livre de Morgan Giuliani, dès qu'elles ont fait un écart de quelque manière que ce soit, et même quand elles restaient dans leur pop un peu candide, elles se font tacler, les meufs. Donc que tu sortes de là où on t'attend ou pas, de toute façon, il y aura un jugement. C'est un peu ce qu'elle va aborder à travers la deuxième partie qu'on va écouter dans quelques minutes, qui va parler de sexisme, justement, dans ce milieu de la pop musique. Mais on va s'écouter un peu de musique peut-être avant. Les Keaton.
Ouais, pour rester dans le Riot Grrr.
Alors ouais, c'est vrai que je ne sais pas si elle s'identifie vraiment comme Riot Grrr.
Mais nous, on les
met dedans. Mais moi, je les aime beaucoup. C'est une formation qui vient de Toulouse, qui s'appelle Radical Keaton. Alors déjà, le nom, j'aime beaucoup. Je vous en avais déjà passé, parce qu'elles avaient sorti un album en 2020 déjà, leur premier, Silence is Violence. Et bah, figurez-vous que cette année, ils ont remis ça avec Uppercut. Il y a toujours des jeux de mots avec les chachas. Et ça, c'est très gouinesque, j'aime beaucoup. Donc, je vous propose d'écouter un extrait que vous entendez d'ailleurs régulièrement sur les ondes primitives, si vous traînez vos oreilles sur le 92.4 plus régulièrement. On va écouter Mouse Trap dans Daiquiri. Non, c'est Mouse. On se retrouve dans quelques minutes. Chacha, les Radical Keaton avec Mouse Trap sur Radio Primitive. Alors, j'ai trouvé le terme exact, Gwen, qui les définit. Riot post-punk queer lyrics. avec des, ouais, chants, avec des paroles queer.
Ça marche.
Donc, ça marche. Ça marche. Vous êtes dans Daiquiri, le programme LGBT de Radio Primitive, bien évidemment, et on va retourner vers notre entretien enregistré de Morgane Giuliani lors de son passage à Reims à la librairie Amaury grâce au Jazz Club. Elle nous présentait son premier livre, Féminisme et musique de la pop musique de Madonna à nos jours. On va écouter un passage où elle nous parle un petit peu plus, davantage en tout cas, des biais sexistes. Et bien dans la culture de la pop musique, les amis.
À travers les différents portraits que tu dresses, il y a quand même des grosses lignes qui ressortent sur les tendances féministes de ces artistes. Madonna, c'est quand même l'hypersexualisation, la remise en question de la religion, parce qu'elle venait d'une famille très catholique. Pour Taylor Swift et pour les Spice Girls, ça se joue aussi assez différemment. Il y a un principe qui revient à chaque fois. C'est le principe de rivalité entre les artistes féminines Et ça, c'est dans la pop musique, mais je pense que c'est un peu partout. Des rivalités qui sont pas forcément réelles en plus, quoi.
Ça, j'en parle pas mal dans le livre. Franchement, j'aurais même pu faire un chapitre dessus si j'avais voulu. C'est plus distillé finalement. Mais oui, en fait, les médias et le public ont vachement tendance à essayer de mettre en rivalité les artistes féminines entre elles notamment. Bon, après, on a bien sûr dans l'histoire, par exemple, les Beatles versus les Rolling Stones, Blur versus Oasis, donc ça existe. Mais chez les artistes féminines solo, c'est hyper répandu. Mais dans le rap aussi, par exemple, avec un peu cette idée que il peut y en avoir qu'une seule, quoi. Comme si il y a qu'une seule Madonna, il peut pas y avoir une équivalente. Et c'est vrai que quand tu fais des recherches là-dessus, tu te rends compte que c'est souvent vraiment inventé par les médias. Par exemple, j'ai une petite partie qui parle de Beyoncé et Taylor Swift, où leur communauté de fans sont hyper rivales. Elles se détestent, sont toujours en train de s'engueuler en ligne sur qui est la plus grosse pop star, etc. Alors qu'en fait, les deux stars en soi sont amies. Donc dans la vraie vie, c'est quand même un peu étrange. Et même là, récemment, elles ont chacune sorti un film-concert de leur tournée respective qu'elles sont en train de faire. Bah, elles se sont rendues chacune à l'avant-première de l'autre et elles ont posé ensemble. Et il y avait un tweet très drôle qui disait « c'est l'équivalent du traité de Versailles pour les communautés de fans, quoi ». Et je trouvais ça pas mal parce que c'est difficile pour un artiste de dire à sa communauté de fans « merci d'arrêter d'harceler tel artiste ou telle autre communauté de fans ». Et finalement, rien qu'en se retrouvant à leurs avant-premières respectives, elles ont envoyé un message en fait à leurs fans. Et ouais, cette rivalité, elle revient tout le temps. Et c'est assez chiant. Et après, ce qui est intéressant, c'est que avec la nouvelle vague de féminisme qu'on connaît aujourd'hui, il y a quand même l'idée de sororité qui se fait, qui monte. Et on voit de plus en plus, je trouve, de collaborations entre chanteuses, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. On a quand même l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui n'a plus envie de nourrir cette rivalité-là. Mais même, par exemple, Madonna, pour parler encore d'elle, quand Lady Gaga est arrivée, tout le monde a dit « Regardez, c'est la nouvelle Madonna, elle est new-yorkaise, elle est d'origine italienne, elle fait de la pop ». Et en fait, elles s'en sont moquées toutes les deux dans un sketch au Saturday Night Live où elles ont fait semblant de se littéralement crêper le chignon pour essayer de couper court à ces projections de rivalité qui, en fait, n'existent pas forcément, quoi.
On a peut-être l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes dans ce milieu de la musique et que du coup ça, c'est plus facile avec le temps qui passe, avec ces nouvelles vagues de féminisme qui font que on assume plus notre place aussi au sein de cette industrie musicale. Et puis il y a eu quand même le phénomène MeToo sur lequel tu reviens beaucoup. Un phénomène qui est pas mal questionné aussi en ce moment puisqu'on a l'occasion de voir ses répercussions. Ça fait quelques années que c'est arrivé maintenant, MeToo. Et au final, ça a créé plein de choses. Peut-être plus sur un versant américain. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un après MeToo qui est pas si foufou que ça au final.
Non, pas des masses. Hein. Parce que déjà, on peut voir que souvent, des artistes qui ont été mis en cause, finalement, il y a pu avoir des affaires judiciaires qui ont été refermées. Par exemple, Patrick Bruel, il a été mis hors de cause. Je rappelle pour les gens peut-être qui savent pas, mais il avait été accusé d'agression sexuelle par deux femmes il y a quelques années. Enfin, genre 3 ans maintenant, 2-3 ans. Finalement, il n'y a pas eu de suite par la justice, mais... là, il n'a pas eu de problème à prévoir une tournée des stades en France où le rappeur L'Homme Pâle, récemment, a rempli 3 fois une grande salle à Paris alors qu'il est accusé aussi de violences sexuelles. En fait, il y a eu beaucoup d'initiatives en France dans la musique autour de MeToo, beaucoup d'associations, de collectifs qui se sont créés. C'était un petit peu retombé et aussi, en fait, on sent ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire un retour de bâton qui souvent suit des vagues féministes. Par exemple, il y a des procès en diffamation actuellement. Il y a eu notamment un grand collectif qui s'appelle Music Too en France, qui s'est créé à la base, qui est un collectif anonyme, qui voulait en fait notamment rassembler des témoignages et aider en fait à rassembler des dépôts de plaintes. Donc ils ont collaboré avec des médias comme Mediapart par exemple pour sortir des enquêtes. Et plusieurs membres de ce collectif ont été attaqués en justice. Sont actuellement attaqués en justice et donc officiellement le collectif n'existait plus, mais ils ont commencé à organiser par exemple des soirées de levée de fonds pour les aider face à leurs frais judiciaires. Ouais, en ce moment je pense que c'est pas la joie, et même moi en fait j'étais surprise en faisant mes recherches de me rendre compte à quel point il y avait eu beaucoup d'associations et de collectifs qui s'étaient créés, quand même pas mal d'enquêtes qui sont sorties en France aussi, notamment dans le rap, sur les scènes rap et rock. Et finalement, pour l'instant, ça donne pas grand-chose, quoi. Donc voilà où ça va donner le Hellfest qui assume d'inviter des artistes accusés de violence, mais qui le dit en plus, voilà, qui dit bah, oui, bah, on a envie de les inviter et c'est tout. Donc on sent que voilà, on est 5-6 ans après MeToo et que ça commence à, enfin, voilà, à être une période de backlash, quoi.
Déjà avant MeToo, il y avait un peu ce sentiment que le féminisme était devenu un peu une mode. Et justement, il y a plusieurs chanteuses, artistes de la pop culture qui ont réutilisé ce terme de féminisme tout de suite, alors qu'au départ, elles n'étaient pas du tout friandes à l'utiliser. Et c'est devenu un objet de visibilité au final.
Oui, un petit peu. Et ce que j'essaie de faire notamment dans le livre, c'est de comprendre, ok, ces chanteuses se disent féministes, mais qu'est-ce qu'elles entendent par féministes ? Et du coup, je vais vraiment fouiller dans les paroles de leurs chansons, regarder leurs clips, mais aussi regarder des interviews qu'elles peuvent donner, tout simplement. Par exemple, Beyoncé, qui est vraiment vue comme l'instigatrice du féminisme pop, parce que c'est la première pop star qui s'est affichée féministe en 2013-2014. Après, quand vous regardez ses interviews, vous vous rendez compte que c'est pas si évident que ça non plus pour elle de s'identifier féministe, notamment à cause des questions raciales, où elle dit... Ok, oui, on peut dire que je suis féministe, mais j'ai pas envie qu'on oublie pour autant les questions raciales, qui pour moi sont aussi importantes que les questions féministes. Et elle-même, parfois, elle a du mal avec le mot féministe. Parfois, elle préfère dire qu'elle est humaniste. Et en même temps, elle a cette chanson voilà, qui lui est vraiment collée maintenant. Et c'est aussi cette chanson-là qui a clairement ouvert la voie à plein de stars, comme Taylor Swift, par exemple, par la suite, pour se dire féministe. Je pense quand même pas que... Parce que bon, c'est souvent... un argument plutôt des antiféministes de dire que c'est devenu à la mode et que c'est du marketing. Je pense qu'il faut essayer de détricoter. Bien sûr, il y aura toujours un côté marketing parce que ce sont des célébrités et qu'il ne faut pas être naïf non plus. Elles créent aussi une image. Mais je pense que là où c'est intéressant, c'est de comparer en fait, notamment entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Par exemple, Beyoncé, c'est un exemple que je cite. Le fait qu'elle a donné un concert à Dubaï l'année dernière pour une chaîne d'hôtels privés, t'es payé 24 millions de dollars, je crois. Bon, Dubaï, qui est un pays sexiste et anti-LGBT, ça pose quand même question, sachant qu'en plus, son dernier album en date Renaissance s'inspire des scènes ballroom, donc de scènes LGBT racisées, voilà. Il y a eu quand même une déception d'une partie du public, même si elle a beaucoup de fans qui l'ont défendu. Dans le livre, c'est un peu un numéro d'équilibriste où j'essaye à la fois de comprendre ce qu'elles entendent par féminisme et comprendre pourquoi certaines ont pu être critiquées, comme Beyoncé par exemple, qui d'ailleurs quand elle s'est dit féministe, s'est pris une vague hyper violente de la part de plein d'intellectuels qui disaient bah non, on peut pas être féministe en fait parce qu'elle est sexy, c'est antinomique, c'est pas possible. Donc j'essaye à la fois de réfléchir, enfin, parfois de remettre en cause un peu les intellectuels féministes qui ont pu parfois, je trouve, avoir été un peu violentes envers certaines artistes et finalement être passées à côté de certaines choses, par exemple les Spice Girls, qui vraiment, enfin même moi j'étais choquée en faisant mes recherches, ont pris très très cher, que ce soit en fait du côté des mecs qui se moquaient d'elles allègrement, mais aussi du côté des féministes, où par exemple c'était la chanteuse de Garbage, qui est un groupe de rock, qui avait dit pour moi les Spice Girls il faut les jeter dans la rue, leur foutre du pétrole et du goudron, des plumes. Et bon, c'est voilà, rétrospectivement 20 ans plus tard on peut se dire bon, c'est quand même un peu violent. Donc voilà, j'essaye un peu de raconter les différents pans de l'histoire et de donner un peu une vision à 360, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui par exemple des artistes comme les Spice Girls qui ne se sont jamais dites féministes et qui au contraire pour elles le féminisme c'était vraiment un truc de ringarde et encore aujourd'hui ont fini par être érigées en icônes féministes, alors qu'elles ne se reconnaissent pas du tout dans ces combats-là. Elles ne sont jamais définies comme ça. Ils se sont dit, bon, bah, faut qu'on trouve un équivalent à Take That, notamment à l'époque. Et donc, elles ont répondu à cette annonce, et en fait, ensuite, elles ont été mises dans une maison, donc un peu façon Starac, que ça n'existait pas à l'époque, et elles ont pris des cours de chant, des cours de danse, entourées d'hommes. Puis ça prenait du temps, et elles enregistraient des démos, mais il ne se passait rien, et elles étaient impatientes, elles voulaient signer un contrat avec une maison de disques, et en fait, au bout d'un moment, elles se sont juste cassées, elles ont pris leur master et elles sont parties et elles sont allées choisir elles-mêmes leur manager, qu'elles ont même viré par la suite et elles ont été vachement critiquées pour ça et ensuite elles se sont autogérées. Et donc je trouve ça hyper important de le rappeler parce que ça fait partie des grosses critiques et des clichés qu'on a sur les Spice Girls de mais elles étaient complètement vaines et superficielles, créées de toutes pièces, elles valent rien, c'était des hommes qui vraiment tenaient les manettes derrière, alors qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs je trouve même que le fait voilà, qu'elles aient volé leur master et qu'elles soient allées chercher elles-mêmes une maison de disques, en vrai je trouve ça hyper courageux. Je trouve que c'est important aussi de redire les faits, parce que voilà, avec le temps qui passe, l'histoire a tendance à effacer certaines choses et on peut se faire des idées préconçues. Et c'est dommage de passer à côté de moments comme ça que je trouve, moi, hyper forts et hyper significatifs aussi de leur manière de se voir en tant que femme dans l'industrie musicale, où je trouve, moi, qu'elles n'étaient pas passives, en fait, du tout, contrairement à ce qu'on veut toujours dire sur elles.
Et t'y crois, toi, à l'autogestion des Spice Girls?
J'adore cette anecdote, parce que j'étais une grosse fan des Spice Girls quand j'étais petite, et je suis trop contente, même si je l'assume toujours, de me dire que, putain, mais en fait, j'avais raison.
Non, mais alors, c'est cool, pas quoi. Tout ou rien, tu vois, il y a des choses qui ont été après analysées comme ayant eu une portée féministe et émancipatrice pour des femmes, mais elles-mêmes se disaient clairement pas féministes,
Mais
étaient plutôt contre ça.
Leur pratique,
ce que l'on est et ce que l'on fait, des fois, c'est
et sur la chanteuse de Garbage, on peut aussi critiquer.
Alors, Shirley Manson, citons-la, parce que je suis déçue, moi.
En plus, on peut dire, je suis désolé, mais le groupe, si je me rappelle bien, le groupe Garbage, c'est quand même les producteurs de Nirvana qui du coup ont essayé de faire un groupe
casting,
et qui ont récupéré une meuf pour dire on fait Garbage, quoi. Même si, pareil, je l'avais vu à Reims, j'ai adoré son concert. J'étais juste déçu de la voir avec 3000 tonnes de maquillage alors qu'elle doit avoir 40 balais et elle doit toujours magnifique.
Je serais curieuse de savoir comment elle était investie parce que Garbage existe toujours, dans le processus créatif, parce que ça fait vraiment front girl. Tu vois, c'est vraiment la meuf qu'on met devant pour dire toi, tu vas faire la bimbo, et puis nous, alors que je pense que c'est bien plus que ça, peut-être, et qu'on le sait pas encore, donc on a hâte de découvrir
le dernier
bouquin de la trilogie de Morgan Giuliani qui portera sur le rock et qui reviendra peut-être sur les Manson, on l'espère. En tout cas, le premier livre, lui, s'appelle Féminisme et musique de la pop de Madonna à nos jours. Il est de Morgan Giuliani, qui est journaliste, et c'est son premier bouquin qu'on vous conseille d'aller acheter. Alors vous allez dire, ça parle pas de LGBT, mais en vrai, ça parle plein de LGBT.
En plus, on a cité dans les extraits, il y a quelques trucs.
Oui, il y a plein
de... réappropriation de la culture queer par la pop, justement.
Et on avait un petit bout où ça parle justement un petit peu plus de culture LGBT, et on voulait quand même vous le faire écouter à la fin de notre émission aujourd'hui.
Aujourd'hui, on peut quand même être optimiste. Il y a quand même tout un tas d'artistes qui affirment à la fois être féministe, mais dans le sens même militant du terme, mais aussi qui assume d'être LGBT, d'avoir une culture queer, beaucoup plus que pouvait se le permettre avant, ou encore une fois, des fois c'était un argument aussi marketing qui était peut-être recherché, et puis, enfin voilà, aujourd'hui on peut quand même assumer un petit peu mieux tout ça, quoi.
Oui, et j'en parle pas mal dans le livre, notamment toute cette scène pop LGBT qui a émergé ces dernières années, et qui est vraiment, je trouve... très vaste en fait finalement, et hyper intéressante, parce qu'on va à la fois parler d'orientation sexuelle mais aussi d'identité de genre. Malheureusement, quand même aussi des artistes pour qui ça se passe mal encore. Par exemple, je cite le cas de Doshi, qui est une artiste française qui est régulièrement victime de grosses vagues de cyberharcèlement, que ce soit à cause du fait qu'elle est lesbienne ou à cause de son corps. Voilà, malheureusement. En fait, tu vois que les artistes, entre guillemets, peuvent plus se permettre d'être dans des combats progressistes qu'auparavant, parce que ça, je le dis dans le bouquin, des artistes LGBT, il y en a toujours eu, c'est juste que c'était beaucoup plus compliqué de l'être. Mais aujourd'hui, c'est sûr que, ou tu vois, par exemple, le fait Angèle, qui après aussi a subi un coming out forcé, donc c'est toujours un peu compliqué ces questions-là, mais qui tout de même est vue, enfin, et, par exemple, sa chanson Ta Reine, je crois qu'elle s'appelle, est vraiment devenue. Une chanson hyper forte pour les milieux lesbiens, LGBT, bi, et c'est hyper positif, donc ça donne de l'espoir. Après, il y a quand même encore un revers de la médaille, je trouve, voilà, où notamment le cas d'Oshi, ou par exemple Angèle aussi, quand son frère, le rappeur Romeo Elvis, a été accusé d'agression sexuelle, les internautes se retrouvaient à beaucoup plus interpeller Angèle que Romeo Elvis, parce qu'ils étaient bien contents à l'idée de « Ah bah alors, la féministe, là, ça fait moins ça maligne ». Une fois, enfin maintenant que c'est ton frère qui est concerné par des accusations comme ça, et c'était horrible. Donc ça montre aussi que ça avance, mais doucement, quoi. C'est un pas en avant, deux pas en arrière, mais en tout cas, ne serait-ce que sur le côté, je trouve, LGBT, il y a beaucoup de choses qui se passent, sur la scène rock aussi, d'ailleurs, j'en parlerai dans le volume sur le rock. Et c'est notamment ces artistes-là, je trouve, qui ouvrent un peu l'horizon des possibles et qui réinventent la musique et qui donnent vraiment des nouveaux modèles d'identification aussi au jeune public.
Et des modèles, on en a besoin, ça, on n'arrête pas de vous le dire dans nos numéros spéciaux Culture Gwyn et tout ça. Il nous en faut des modèles et il y en avait plein dans la culture pop, déjà à partir de Madonna. Je crois que tu voulais revenir dessus, ouais, d'ailleurs.
Que ce que tu disais tout à l'heure en disant que quoi que font les meufs, elles sont critiquées. Bah, on peut le voir avec Madonna qui a une carrière énorme, qui a changé tellement de style pendant toute cette carrière et qui à chaque fois s'est pris des shit posts, des trucs sur sa gueule parce que juste parce que c'était une femme et que ça faisait chier en fait. Mm-mm. Mais elle a raison. Soutenez les artistes LGBT en achetant leurs produits et
ça vous empêche pas de trouver des imperfections parce que ce qui a fait conclusion à ce débat un peu, c'est qu'on reste toutes humaines. Voilà, qu'on en soit pop star ou pas, surtout quand on est une pop star et qu'on est peut-être tout le temps suivi par les gens qui vont commenter en permanence ce que vous faites. C'est bon quoi. En fait, ils sont pas. Alors oui, ils sont souvent devant les lumières, mais ça en fait pas des gens parfaits pour autant, et ils sont faits de leurs propres contradictions. Donc c'est normal. Donc allez acheter le livre de Morgane Giuliani, Féminisme et musique de la pop de Madonna, à nos jours, à la librairie Amaury et plein d'autres lieux, bien évidemment, sur les internets. Et toi, tu peux peut-être rappeler livre sur le gre.
Donc le griffe sur le gre, donc c'est Riot Girl, chronique d'une révolution punk féministe aux éditions La Zone, enfin Zone plutôt, avec un S, et c'est de Manon Labrie. Et j'avoue que là maintenant, moi j'ai hâte d'avoir les deux autres tomes de Morgane sur le rap et sur le rock.
Ouais,
ça c'est pour les années à venir.
Pour voir si j'ai une culture, parce que je vous avouerai que la pop musique, il y a des choses qu'on sait parce que c'est populaire et donc on le sait un peu tous, et il y a des choses qu'on sait pas. Moi c'est pas forcément mon style de prédilection, donc j'ai hâte de voir sur des styles peut-être qui me correspondent peut-être un peu plus, de voir ce qu'a trouvé Morgane Giuliani là-dessus. Nous on se retrouve le mois prochain sur Radio Primitive. Comme d'habitude, on sait pas trop. On va d'ailleurs pas vous dire de quoi on va vous parler.
On a des pistes, mais on garde la surprise parce qu'on est secrète.
Voilà. On sait par contre ce qu'on va vous mettre en musique.
Oui, du coup, pour rester sur le thème, parce que dans le bouquin, vous avez entendu que ça parlait de Taylor Swift. Alors là, il y a Morgane qui est morte de rire parce que depuis, elle sait que j'ai du mal à dire Swift, mais là, j'y arrive. Donc, je suis très contente. Donc, on va finir avec une chanson de Taylor Swift, je le redis. Alors, c'est qui c'est une auteuse, compositrice, interprète et actrice américaine qui a commencé en 2006 avec un album de country, la musique préférée de
Et elle a commencé toute petite et c'est elle qui a forcé ses parents à déménager pour faire de la musique.
Ouais, c'est beau. Hein.
C'est beau. Hein.
Et du coup, elle a 11 albums.
Ça, c'est les bourgeois, ça.
Ouais. Elle a 11 albums à son répertoire, en sachant qu'il y en a 4 pour l'instant qui ont été réenregistrés parce qu'elle a perdu les droits sur les 6 premiers. Et là, en ce moment, elle est en train, d'une manière aussi encore très féministe, de les réapproprier, de les réenregistrer avec les arrangements qu'elle veut, elle. Donc, si vous voulez acheter du Taylor Swift, achetez les...
nouvelles versions.
Les nouvelles versions. En plus, là, je me suis trompé, j'ai dit Taylor Swift, voilà. Je me rattrape. Donc, c'est important de pas se tromper et de prendre ces nouvelles moutures qui, en plus, ont l'air super, super chouettes. Alors, c'est une alliée des causes LGBT parce qu'elle fait beaucoup d'œuvres caritatives pour les LGBT, mais aussi pour d'autres œuvres sociales. Et la petite anecdote que j'avais trouvée intéressante, c'était qu'en 2017, elle a gagné son procès contre un de ses ex qui était DJ et elle a eu le droit à 1 dollar symbolique en dédommagement.
Comme quoi. C'est des choses sur lesquelles revient Morgane Giuliani dans son livre. Comme on vous le disait, c'est découpé en portrait au début et puis après, elle parle plus de politique sur le mouvement MeToo, sur le sexisme, sur la rivalité et tout ça. Mais vraiment, toute la grosse première partie du bouquin, c'est ces portraits-là. Et c'est sur ce genre de choses qu'elle revient. Et elle cite plein d'artistes contemporaines que moi, je connais encore moins que Taylor Swift.
En tout cas, ça nous montre que... parce que dans les extraits que vous avez entendus, on remarque quand même que le MeToo est très compliqué en France, mais qu'aux États-Unis, même s'il a fait quand même plus de percées, c'est pas non plus encore la joie, quoi.
D'ailleurs, on vous a parlé du bouquin sur les Riot Girls qui traite donc du cas américain. Et c'est vrai qu'on se posait des questions sur le mouvement Riot Girl français. Donc si vous avez de la matière à lire, à visionner, à parler sur le Riot Girl français, nous on est preneuses.
Et moi je me permettrais...
Contactez-nous.
Une dédicace à un groupe de Riot Girl rémois, feu, groupe de Riot Girl, mais que j'adore et que j'adore toujours, qui s'appelait Ragnagna Princess, qui était vraiment trop bien. C'est, je crois que c'est même mon groupe préféré de Riot Girl, au-dessus de Hall.
Oh
et donc, allez écouter, et ça doit être encore sur les internets. Et non, c'était vraiment super cool. Et n'hésitez pas à faire des groupes de Riot Girl. Hein. Enfin,
bah voilà.
C'est pas l'époque qui l'empêche, quoi.
Nous, on se retrouve. La rediff, c'est samedi déjà, à midi. Vous serez en voiture certainement si vous entendez nos douces voix. Ce n'est que la rediffusion. Puis évidemment, le podcast sur le site de Radio Primitive, radioprimitive.fr. On se quitte donc avec Taylor Swift.
Et c'est quoi la chanson de Taylor Swift?
Bah, quelque chose qui colle à sa peau, j'ai envie de dire. New Romantics.
Ouais. En plus, ça va avec le mois de février. Donc, on vous a mis plein d'amour pour cette belle émission.
On vous dit au mois prochain.
Oui.
Allez.
On vous embrasse.
Salut. We're all bored, we're all so tired of everything we wait for. Trains that just aren't coming, we show off our different scarlet letters. Trust me, mine is better. We're so young, but we're on the road to ruin. We play dumb, we know exactly what we're doing. We cry tears of mascara in the bathroom. Honey, life is just a classroom. It's so romantic.